VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui, Abdourahman Dia, à la présentation de cette édition de 18h30 TU du 14 juin 2017. Au sommaire, l'église catholique au Cameroun réfute la thèse d'un suicide d'un évêque et parle d'assassinat de Monseigneur Jean-Benoît Bala. Le président ivoirien Alassane Ouattara estime que les pays africains ont une responsabilité pédagogique face au phénomène de l'immigration et que les jeunes sont mieux en Afrique qu'ailleurs. Début du procès d'un défenseur des droits de l'homme au Soudan, Madawi Ibrahim Adam risque la peine de mort. Fusillade aux États-Unis, 5 blessés, dont un parlementaire républicain. Le président Donald Trump se dit attristé par une attaque brutale. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Et tout d'abord, le journal. La mission de l'ONU au Congo se dit préoccupée par 62 cas de violations graves des droits des enfants commis par des miliciens dans l'est et le centre de la RDC. 19 cas de viols et violences sexuelles sur des filles mineures ont été répertoriés depuis septembre selon la MONUSCO. L'ONU accuse les rebelles Kamwina-Sapu d'enrôler des enfants soldats et d'avoir commis des atrocités, tout en dénonçant également l'usage disproportionné de la force par l'armée congolaise. Au Cameroun, l'Église catholique dénonce l'assassinat brutal de Monseigneur Jean-Benoît Bala, évêque de Bafia, une localité située à 128 km de Yaoundé. Le président de la Conférence épiscopale nationale, Monseigneur Samuel Kleda, a donné un point de presse ce matin à Yaoundé pour rejeter l'idée d'un suicide. Le point avec Emmanuel Jultap, notre correspondant sur place.
Notre Père, qui es aux cieux.
Dans une atmosphère de recueillement, au siège de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, son secrétaire général annonce à la presse l'assassinat de l'évêque de Bafia, retrouvé le 2 juin 2017 dans les eaux du fleuve Sanaga.
Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été brutalement assassiné.
La thèse de l'assassinat est vite renchérie par le président de la Conférence épiscopale nationale, Monseigneur Samuel Kleda.
Ce n'est pas une personne qui s'est noyée. L'évêque ne s'est pas suicidé.
La déclaration des évêques exige, entre autres, que l'État identifie nommément les coupables et les livre à la justice.
Si nous ne sommes pas satisfaits, nous pouvons intervenir d'une autre manière.
Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Le président ivoirien Alassane Ouattara a estimé devant le Parlement européen que la lutte contre l'émigration massive vers l'Europe doit passer par l'éducation et l'information des Africains. Il a ajouté que ces jeunes doivent comprendre qu'ils sont mieux en Afrique qu'ailleurs. C'est la responsabilité des pays africains de faire un travail pédagogique, a ajouté le chef de l'État ivoirien un peu plus tard devant des journalistes. Au Nigeria, le président du Sénat a été acquitté. L'un des 66 avocats de Bukola Saraki a affirmé que les procureurs n'étaient pas en mesure de fournir les preuves de leurs accusations de corruption quand il était gouverneur de l'État de Kawara entre 2003 et 2011. Il était également accusé d'avoir continué à percevoir son salaire de sénateur alors qu'il était gouverneur. Début aujourd'hui du procès d'un éminent défenseur des droits de l'homme au Soudan. Madawi Ibrahim Adam est accusé d'espionnage au profit de pays étrangers en contrepartie d'argent. Amnesty International réclame sa libération immédiate, Jacques Aristide.
Le procès s'est ouvert en présence de diplomates occidentaux et de militants soudanais pour Amnesty, l'arrestation et la détention de Madawi Ibrahim Adam et de son collègue Hafiz Idriss El-Douma constituent une erreur judiciaire. L'ONG ajoute qu'ils ont été sans cesse harcelés par les autorités soudanaises. Professeur d'ingénierie à l'université de Khartoum, Madawi, 58 ans, a été interpellé en décembre dernier lors d'une des manifestations dans la capitale contre la réduction des subventions sur les prix des carburants. D'après Amnesty, c'était l'occasion pour les autorités de mener une campagne de répression visant des militants et des responsables de l'opposition. Outre l'inculpation d'espionnage, Madawi est accusé d'avoir écrit que les forces de sécurité avaient fait usage d'armes chimiques. Il risque la peine de mort. La prochaine audience est prévue le 20 juillet prochain.
La procureure de la Cour pénale internationale demande l'arrestation immédiate du fils de l'ex-dirigeant libyen Muammar Kadhafi, Saif al-Islam, qu'un groupe armé libyen affirme avoir relâché vendredi. Le mandat d'arrêt délivré à son encontre en 2011 pour crimes contre l'humanité est toujours en vigueur et la Libye est tenue de procéder immédiatement à l'arrestation de M. Kadhafi et de le remettre à la CPI, a déclaré Fatou Ben Souda dans un communiqué. Un homme d'affaires proche de l'ex-président tunisien Zine Abidine Belhanni a été interpellé dans le sud-est de la France. Recherché par la justice de son pays, Moncef El Materi a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente d'une éventuelle extradition selon des sources judiciaires françaises. Un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre le 28 septembre 2011 par un juge d'instruction de Tunis après la chute de Ben Ali.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, un élu républicain du Congrès a été blessé, ainsi que plusieurs autres personnes aujourd'hui, par un individu armé qui a finalement succombé à ses blessures. Il s'agit d'un partisan du sénateur Bernie Sanders, candidat malheureux à la nomination démocrate en 2016. La fusillade a eu lieu très tôt ce matin près de Washington. Le point avec Solange Nyamulisa.
La fusillade a eu lieu à Alexandria, en Virginie. Le numéro 3 de la Chambre des représentants, Steve Scalise, a été touché à la hanche, mais son état est stable. 5 personnes ont été blessées, dont 2 officiers de la police du Capitole.
Congressman Scalise is a friend and a very good friend. He's a patriot.
Le président Donald Trump a condamné cette attaque brutale et s'est dit profondément attristé, d'autant qu'il connaît personnellement Steve Scalise. Mo Brooks, un élu qui s'est trouvé sur place, a dit avoir vu un homme armé d'un fusil semi-automatique qui a tiré dans toutes les directions. Les officiers de sécurité ont riposté, touchant l'assaillant qui finira par succomber de ses blessures. L'agresseur James Hankinson, 66 ans, est originaire de l'Illinois. Ses motivations ne sont pas connues. Les élus républicains s'entraînaient en vue d'un match de baseball contre les démocrates pour aider les plus démunis, une tradition établie depuis 1909.
Toujours aux États-Unis, près de 200 élus démocrates du Congrès ont assigné en justice Donald Trump. Ils lui reprochent de profiter de sa fonction présidentielle pour amasser des gains financiers venus de l'étranger. Il s'agit de la deuxième plainte déposée cette semaine contre le président américain. L'État du Maryland et la capitale Washington avaient déposé plainte lundi, l'accusant d'accepter des paiements de gouvernements étrangers via son empire immobilier. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, évoque la possibilité d'un nouveau cycle de pourparlers de paix à Genève en juillet, d'y espérer des avancées entre Américains et Russes au G20 le mois prochain. Pour l'émissaire de l'ONU, ce G20 pourrait permettre des avancées grâce à une possible première rencontre entre les présidents américains Donald Trump et russe Vladimir Poutine. À Londres, la nuit dernière, au moins 6 personnes ont trouvé la mort et plus de 70 blessés dans un incendie qui a ravagé un immeuble de logements sociaux. Les précisions avec Ekiabadou.
Selon un commandant de la police, le bilan risque de s'alourdir et les recherches vont durer plusieurs jours. En 29 années de carrière, je n'ai jamais rien vu de cette ampleur, a également déclaré Danny Cotton, la chef des sapeurs-pompiers de Londres. Ses services ont été alertés peu avant 1h du matin dans le quartier de Kensington, à l'ouest de Londres. En 6 minutes, les pompiers étaient sur place pour tenter de venir à bout des flammes qui ont calciné l'immeuble de 24 étages. 400 pompiers et 200 soldats ont été mobilisés. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Un collectif de résidents pointait depuis plusieurs années les carences du système d'alarme et de protection en cas d'incendie. Une opération de rénovation d'un montant de 8,6 millions de livres s'est achevée en mai 2016. L'entreprise en charge des travaux assure avoir respecté toutes les normes en matière d'incendie, de sécurité et de construction.
Le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU s'est dit alarmé par l'impact de l'isolement diplomatique du Qatar. Zayed Raad al-Hussein a averti qu'il pourrait conduire à plus de souffrance pour les populations. L'Arabie saoudite et ses alliés ont rompu leurs relations avec le Qatar, l'accusant de soutenir le terrorisme, une allégation que Doha a fermement rejetée. Et puis en France, le Front National ne donne aucune consigne de vote pour le second tour dimanche prochain en cas d'absence de candidat du FN. Le parti d'extrême droite a réalisé un score nettement en deçà de ses attentes au premier tour des législatives. Selon des projections après le premier tour, la coalition soutenant le président Macron obtiendrait dimanche prochain entre 400 et 455 des 570 sièges. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle tout de suite dans la Minute Éco, présentée ce soir par Morgane Guiriec.
Le Sénégal obtient un nouveau prêt de 6,6 millions d'euros pour l'extension de la centrale au fioul de Tobène. L'Emerging Africa Infrastructure Fund a octroyé cette somme à Melek Power Gen, qui gère la centrale, mise en service en 2016. Ce prêt d'une durée de 13 ans doit permettre d'ajouter un nouveau groupe de 19 MW à celui de 96 MW et qui fera passer la capacité à 115 MW. Alimentée au fioul lourd, la centrale de Tobène pourra être convertie au gaz naturel une fois que cette ressource sera disponible depuis les gisements découverts au Sénégal. La Guinée veut lancer son premier cycle d'octroi de licences pétrolières et gazières. C'est ce que rapporte l'agence Ecofin, citant l'Office national du pétrole. D'après Offshore Energy Today, le cycle sera ouvert pendant 6 mois à partir d'octobre 2017 et les résultats seront disponibles courant octobre 2018. République démocratique du Congo, les deux consortiums qui demeurent dans la course pour la construction de la centrale hydroélectrique Dinga 3 sont invités à soumettre une offre unique et conjointe de développement de l'infrastructure. Cette annonce a été faite par l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga. Le barrage d'Inga 3 aurait une capacité électrique d'environ 4800 MW. Sa production est destinée en grande partie à l'exportation vers l'Afrique australe, à l'approvisionnement des populations de la région et de l'industrie minière du pays.
Présent la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdul Rahmat, bonsoir à tous.
Alors le Costa Rica se rapproche de la Coupe du Monde 2018.
Profitant du nul des États-Unis face au Mexique dimanche, le Costa Rica a conforté la nuit dernière sa deuxième place des qualifications de la zone CONCACAF en battant Trinité et Tobago 2-1. Avec 11 points en 6 journées, le Costa Rica est deuxième de son groupe derrière le Mexique et compte 3 points d'avance sur les États-Unis. Et pour le moment, le Panama occupe la place de barragiste.
Football côté justice et Ronaldo dit avoir la conscience tranquille.
Oui, Cristiano Ronaldo, accusé d'évasion fiscale à hauteur de 14,7 millions d'euros, a affirmé avoir la conscience tranquille face au risque de poursuite pour fraude qui pèse contre lui en Espagne. Avant de s'envoler vers la Russie pour disputer la Coupe de Confédération avec l'équipe du Portugal, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers s'étaient entraînés près de Lisbonne. Real Madrid lui a apporté son soutien ce mercredi, se disant convaincu de la totale innocence du Portugais.
Pas assez d'entraîneurs noirs dans le foot anglais.
La seule femme noire au sein de la direction de la Fédération anglaise de football, Heather Rabat, s'est dite frustrée par ce manque de diversité. La saison prochaine, seul un entraîneur noir se retrouvera sur le banc d'une équipe de Premier League, le championnat le plus cher et le plus médiatisé dans le monde. Il s'agit de Chris Hutton, l'entraîneur de Brighton, qui avait lui-même en janvier déploré le manque de diversité parmi ses confrères et évoqué un véritable souci.
On reste en Angleterre où le calendrier de la Premier League a été dévoilé.
Effectivement, la course à la succession de Chelsea commence le week-end des 12 et 13 août. Le seul duel notable de la journée d'ouverture va opposer à l'Emirates Stadium Arsenal à Leicester, champion 2016. Chelsea, champion de la saison écoulée, va commencer la défense de son titre par la réception à Stamford Bridge de Burnley. Le premier choc va avoir lieu lors de la deuxième journée. Chelsea chez son dauphin Tottenham pour un derby londonien délocalisé à Wembley en raison de la construction du nouveau stade des Spurs.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour en Côte d'Ivoire. Des voix s'élèvent de plus en plus pour demander la libération de tous les prisonniers politiques. Il s'agit surtout de personnes arrêtées à la suite de la crise post-électorale de 2010 et 2011. Une association de femmes est à la pointe de ce combat. À Abidjan, les précisions de Georges Ibrahim Tunkara.
Je suis dans la souffrance. Mon mari est détenu de manière injuste dans une prison et on vient me parler de réconciliation.
Simone Daté est la présidente du collectif des femmes des détenus de la crise post-électorale, le COFED, une organisation qui lutte pour la libération de tous les détenus politiques. Dans le café où elle nous reçoit, Simone Daté nous raconte le calvaire des membres de l'association qu'elle dirige.
On vit dans l'angoisse, dans la tristesse totale, dans la désolation. Parce que tu ne sais même pas si ton époux vit, ça c'est un d'abord. Après, quand tu sais où ton époux est, quand tu vas trouver ton époux, dans la condition où tu vois ton époux, vraiment, c'est trop grave. Nous sommes obligés de mener des démarches pendant plusieurs semaines pour voir nos époux. Avec les enfants aussi qui demandent maman et papa, c'est compliqué, c'est vraiment triste.
Simone et les autres membres de son organisation tentent depuis des mois de rallier le maximum de soutien à leur cause.
Nous avons croisé le noce apostolique dans le temps. Nous avons croisé le cardinal d'Abidjan, les chefs religieux, coutumiers, tout ça. Parce que nous disons que c'est tous ceux-là qui peuvent être nos médiateurs auprès des autorités. Nous avons même fait des sittings, nous avons fait des grèves de faim. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, il y a encore, malheureusement, nos parents qui sont détenus.
Antoinette Meo fait partie des prisonniers pour qui le collectif s'est mobilisé. Âgée de 61 ans et mère de 6 enfants, cette dame avait été arrêtée en août 2016 pour atteinte à la sûreté de l'État. Après 9 mois de détention sans jugement, elle a été libérée en mai dernier. Pour elle, la libération de tous les détenus politiques sera un signal fort en vue de la réconciliation nationale.
Nous sommes tous des enfants de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de la réconciliation, on ne doit pas avoir des prisonniers politiques, qu'ils soient tous libérés, pour que nous puissions passer à la réconciliation, à la paix et au développement de la Côte d'Ivoire.
Il y a quelques jours, Hubert Houlaye, un haut cadre du FPI, le parti de Laurent Gbagbo, bénéficiait de la liberté provisoire après 2 années de détention. Selon le collectif des femmes des détenus, quelques 200 personnes, civiles et militaires, sont toujours gardées dans les prisons et sans jugement. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
En Guinée, la prolifération dans la vente des eaux minérales préoccupe les services en charge du secteur de l'eau à la consommation. Certaines eaux sont commercialisées sans aucune autorisation. La grande offre des sachets d'eau commence à faire douter certains à Conakry, comme nous le raconte notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
À l'Office national de contrôle de qualité, on est à la recherche d'équipements performants et de moyens logistiques. Ici, le nombre croissant des unités de production d'eau en sachet s'explique.
Ce que nous voulons, un papier d'une autorité qui autorise. On ne peut pas dire « Ah, il ne doit pas ». Mais s'il y avait un décret pour faire habiliter un seul département pour délivrer ces papiers, soi-disant l'autorisation de mise en consommation, il n'y a pas de problème pour ça.
Zakaria Touré est le directeur général de l'Office national de contrôle de qualité. Selon lui, toutes les analyses ne donnent pas le même résultat. Certaines eaux sont impropres à la consommation.
Tous les échantillons d'eau analysés par nous, si ce n'est pas bon, on ferme la production et les intéressés viennent demander nos expériences pour qu'on vienne les aider à améliorer la qualité de leur eau.
Des sachets d'eau, il y en a dans toutes les boutiques à Conakry et des vendeurs à la sauvette dans les rues. Difficile de chiffrer avec exactitude le nombre d'unités de production dans la capitale. Plus de la moitié des unités de production dont les sachets sont commercialisés évoluent dans la clandestinité. Ibrahim Djané, directeur général du Fonds de l'hydraulique.
Pour ce qui concerne Conakry et périphérie, effectivement, avec nos recensements de routine, Nous avons pu recenser une cinquantaine de sociétés d'eau minérale. Parmi ce lot, il n'y a qu'une vingtaine qui sont repérées, c'est-à-dire qui sont localisées, qu'on a identifiées et qu'on sait où se trouve leur siège, où se trouve leur unité de production.
Dans la capitale, certains Guinéens commencent à se poser des questions sur ces eaux en sachet.
Il y a un autre voisin là-bas, il avait fui une forêt chez lui. Actuellement, il emballe de l'eau là-bas et il revend dans la capitale comme si c'est l'eau minérale. On ne sait pas s'il est à règle ou pas. On ne sait pas si c'est minéral ou pas.
Pour vendre plus les sachets d'eau, de nombreuses unités de production ont choisi les noms de quartiers ou celui des villes. Une démarche marketing qui vise à intéresser plus d'habitants de ces localités. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La lutte contre la corruption au Burkina Faso semble avoir fait des progrès ces dernières années, mais les ONG estiment que les dossiers ne connaissent pas vraiment un aboutissement devant la justice en raison notamment des lenteurs. Pour Claude Weta, secrétaire général du RENLAC, le réseau national de lutte contre la corruption, il y a un véritable manque de volonté politique de la part du gouvernement. Claude Weta est interrogé par Bagassi Koura.
Nous estimons que la volonté politique n'est pas encore affirmée. C'est une volonté politique qui manque de force, de fougue. Et donc, ça peut être lié aussi au fait que, ce gouvernement-là a des liens avec l'ancien gouvernement. Et donc, c'est pas aussi évident de pouvoir effectivement se détacher de ce qui s'est passé au cours des 27 années de règne de Blaise Compaoré et peut-être de l'année qui vient de s'écouler où on sent encore qu'il y a quand même des problèmes.
Alors récemment, le professeur Luc Ibriga, le contrôleur général d'État, dénonçait la lenteur au niveau de la justice.
Oui, je pense que il y a aussi que la justice prenne effectivement passer les dossiers. Le professeur Luc Ibriga a montré que ils avaient envoyé 86 dossiers donc au niveau de la justice depuis que lui il est à la tête donc de la SELC. Effectivement, ces dossiers-là jusqu'à présent ne sont pas jugés. Nous avons également le dossier emblématique de Diro, Ousmane Diro, qui a été le DG, l'ancien DG de la douane. Le jugement a été fait, appel a été également fait, mais jusqu'à présent on n'a pas le dénouement de cette affaire. Donc il y a un certain nombre de choses, on a l'impression qu'on fait du surplace. Et ça nous inquiète.
Et pourtant, on a fait récemment, sous la transition notamment, la réforme de la justice.
Voilà, on a fait la réforme de la justice. On a augmenté le salaire des magistrats. Et donc, toutes ces conditions qui sont là, normalement, devraient permettre d'aller plus vite. Bon, évidemment, il y a encore des choses. Je sais qu'au niveau de la SELC, on demande effectivement qu'on lui donne plus de moyens pour les investigations. On demande qu'au niveau de la justice, il y ait des pôles qui puissent permettre de faire avancer les dossiers des crimes économiques.
C'était Claude Weta, secrétaire général du RENLAC, le réseau national de lutte contre la corruption.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le représentant spécial d'Antonio Guterres pour l'Afrique centrale était hier mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU. À New York, François Lucenifal a présenté son rapport sur les crises et les défis en Afrique centrale. Joint par Tatiana Mosso, il revient sur les différents dossiers de la Centrafrique au Congo avec la situation dans la région du pôle.
Nous avons rendu compte au Conseil de nos exercices de bons offices que nous offrons dans la région, et notamment sur des régions comme le Congo, le Cameroun, également la situation de la sous-région dans le domaine sécuritaire lié à Boko Haram, à la LRA, la piraterie maritime, et aussi dans le cadre de la diplomatie préventive qui est au centre du programme du nouveau secrétaire général, ce que nous sommes en train de faire avec la communauté économique de l'Afrique centrale, l'organisme sous-régional, et qui devrait avoir un rôle plus actif à la prévention, à la résolution des conflits.
Quels sont les dossiers prioritaires pour vous aujourd'hui?
Il y a d'abord la République centrafricaine. Vous savez, les Nations Unies sont engagées très activement à la République centrafricaine. Donc, il y a un plan d'action qui a été élaboré par le secrétaire général. Et le bureau de représentants sociaux à la Bangui et moi-même, nous sommes chargés de la mise en œuvre de ce projet. Il y a aussi les problèmes liés à Boko Haram, surtout l'impact de Boko Haram sur les populations les plus vulnérables, à savoir les femmes et les enfants. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important aujourd'hui, et de même que la piraterie maritime.
Autre sujet, le Congo-Brazzaville, tout le monde parle de ce qui se passe dans la région du Pool. Est-ce que ça a été évoqué aussi dans votre rapport?
Oui, nous l'avons discuté en close session d'ailleurs, et donc nous avons rendu compte des dernières démarches que nous avons effectuées à Brazzaville au sujet de la question du Pool, et le Conseil a été rendu attentif à la situation qui se développe là. Et je pense que le problème, les grands problèmes là-bas, c'est les questions d'accès humanitaire et les questions nutritionnelles qui sont posées. Et nous avons donc rendu compte au Conseil des démarches que nous avons entreprises dans ce sens.
Quelles sont les mesures qui pourront être mises en place pour endiguer les différentes problématiques que vous venez de soulever?
Écoutez, le Conseil de sécurité reste attentif à toutes ces questions qui sont d'ordre sous-régional. Dans l'architecture de paix et de sécurité de la région, il est important donc que ces problèmes-là soient pris en compte. Il y a donc d'abord la question du bassin de la Tchad, qui est une question transfrontalière entre l'Afrique centrale et l'Afrique occidentale, l'histoire de Boko Haram. Il y a aussi la question du Pool, où des efforts doivent être fournis par le gouvernement congolais afin de résoudre rapidement cette crise qui touche déjà des populations civiles avec les déplacés. Et il y a aussi les questions touchant à l'intégration régionale, qui est un facteur important. Car vous savez que dans l'Afrique aujourd'hui, il est évident que ce sont les régions qui règlent les problèmes politiques. Et donc l'Afrique centrale a un petit retard en matière de médiation et de règlement des conflits. Donc nous sommes là, nous sommes appelés à renforcer donc les capacités de la CEAC dans ce sens.
C'était le diplomate guinéen François Lucène Fall, représentant du secrétaire général de l'ONU en Afrique centrale.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Qu'un pote est devenu un frère. Quand je marche avec lui, pas rien ne me prête. On a vécu des choses qu'on peut pas citer. Entre nous, pas de langue de bois, pas de secret. On n'a pas changé, les années sont passées. Certains nous ont lâchés. On s'est promis d'être soudés jusqu'au bout. Tu l'as choisi, vous deux, c'est l'amour fou. Tu connais sa famille, elle connaît la sienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. N'aie pas d'inquiétude, c'est sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle.
Ce soir, c'est ton jour. La noce peut démarrer. On est tous dans la foule. Tout le monde est présent.
Voilà, le franco-guinéen MHD dans Akalé est sur ce titre choisi par Sims Lumami. Qu'on se quitte, Sims Lumami qui a d'ailleurs réalisé cette édition. À la console, il y avait Joe Gill, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Au revoir.
N'écoute pas les gens, tous les hommes sont pas pareils, c'est qu'une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je connais par cœur, c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt. Ça me fait plaisir, ça me fait rêver. Tout le quartier s'est déplacé pour toi. Ton histoire ne fait que commencer.
Ce soir c'est ton jour, la danse va démarrer. On est tous dans la foule.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.